Nicole.
Bonjour Serge.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci. Toi, comment vas-tu?
Ça va bien, ça va bien. Alors Nicole, Francine et moi, avec l'émission Juste pour voir, nous avons commencé une tradition. Réinviter des personnes qui sont déjà passées à l'émission et de mémoire, toi, tu étais passé dans la semaine des personnes handicapées la première semaine de juin en 2019. Alors, entre ça, il y a eu la COVID, la pandémie. Est-ce que tu peux nous donner une idée pour le bénéfice de l'auditoire? Qui est Nicole Trudeau?
Écoutez, oui, effectivement, je suis une personne handicapée. J'ai fait mes études d'abord à l'Institut Nazareth et puis à l'Université de Montréal et puis en France. Bon, un bon bout de chemin. Après ça, j'ai fait une carrière d'enseignement de la musique dans différentes institutions, à commencer par le Conservatoire de musique du Chicoutimi. Plus tard, dans ma carrière, j'ai été amenée à m'impliquer dans le domaine du braille pour la réalisation d'un code pour la transcription de l'imprimé en braille. Ce projet de recherche qui s'est fait à l'Université du Québec à Montréal, soutenu financièrement par le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec, a été publié pour la première fois en 1989, a été lancé au Québec en 90, a été lancé en France dans le cadre de la francophonie en 1991 et une deuxième édition a été publiée en 1996. Ça, c'était la première étape d'un projet de normalisation du braille. Je sais pas si je dois continuer tout de suite, mais le braille avait été inventé au début du 19e siècle, mais n'avait jamais été normalisé. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais eu de règles générales publiées officiellement et pratiquées dans l'ensemble des utilisateurs du braille à travers le monde. Alors, ça a été une initiative originale proposée par le ministère de l'Enseignement supérieur et pour lequel, donc, j'ai travaillé à sa réalisation et à sa publication. Bon, voilà pour l'instant. On pourra voir si on a besoin de donner plus de détails par la suite.
Or, pour le bénéfice de l'auditoire, j'arrivais avec la question, si je te dis le mot Louis Braille, alors ça peut t'envoyer, ouvrir tes antennes et tout, mais pour le bénéfice de l'auditoire, Nicole, est-ce que tu peux expliquer le système Braille que les personnes qui ont des problèmes de vision utilisent?
Bon. L'institutionnalisation, c'est-à-dire la scolarisation des personnes aveugles à travers le monde, ça n'a pas une très vieille histoire. Ça a commencé à la fin du 18e siècle, lorsque Valentin Allier a, disons, mis sur pied une institution pour la formation des aveugles à Paris, donc en 1784. Et avant ça, il n'y avait pas de scolarisation pour les personnes non-voyantes à travers le monde, donc c'est relativement jeune. Louis Braille a fréquenté très jeune cette institution, puisque lui est né en 1809. Bon, à l'époque, pour la lecture, on utilisait l'embossage des caractères de l'imprimé, ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas écrire, hein. Bon, Louis Braille, enfin, très, très astucieux, a commencé à chercher comment développer un système tactile spécifique. Alors, son premier projet vers le braille est apparu, son projet préliminaire, en 1825. Il était fort jeune. Et la publication de son système a été faite quelques années plus tard, en 1829. La version définitive a été en 1837. Donc, il s'est inspiré d'une technique de communication militaire qui fonctionnait comme un peu le code Morse, si on veut. Alors, la cellule braille qu'il a inventée, à partir de laquelle se constitue chacun des caractères braille, est formée de 6 points disposés comme les 6 points d'un domino. 3 points verticaux, 2 fois. Alors, en utilisant toutes les combinaisons possibles avec un ou tous les caractères, tous les points de ce caractère, il a constitué un symbole spécifique pour chacune des lettres de l'alphabet. Donc, le braille ne reproduit pas du tout l'image des caractères visuels. C'est un système totalement autonome qui se suffit à lui-même. Par exemple, si on a un point en relief, le point en haut à gauche, ça va donner la lettre A. Ensuite, il y a toutes les combinaisons possibles de deux points. Les deux points en haut à gauche, au milieu à gauche, ça fait B, etc., en haut à gauche, en haut à droite, etc. Et avec ça, il a constitué donc l'alphabet, la reproduction de chacune des lettres de l'alphabet. Le système Braille, c'est un système autonome. C'est pas une langue, hein? Les gens pensent que c'est une langue, le Braille. C'est une technique d'écriture et non pas une langue. Et c'est une technique caractère par caractère. C'est pas du tout phonétique, hein? C'est textuel. Alors, c'est comme ça que, bon, ça a été pratiqué là où il étudiait, à Paris, et ensuite, ça s'est répandu progressivement à travers le monde. Et c'est arrivé au Québec avec la fondation de l'Institut Nazareth, donc, dans les années 1860.
Non, mais l'Institut Nazareth, lui, Braille?
Non, non. L'Institut Nazareth qui était initié sous le modèle de l'Institut de Paris a été fondé à Montréal en 1861. C'est pas du tout l'Institut Nazareth et Louis Braille, là. C'est bien plus vieux que ça, là.
Ah oui, oui, OK.
C'est arrivé avec les Sulpiciens, les Sœurs Grises et tout. Et d'ailleurs, la première école, l'Institut Nazareth, ça s'appelait, était située à l'emplacement actuel de la Place des Arts, rue Sainte-Catherine. Après, bon, ça a déménagé à différents endroits, puis là, c'est rendu à Longueuil. D'ailleurs, l'Institut Nazareth et Louis Braille, maintenant, n'est plus une école, hein. C'est un centre de réadaptation. C'est plus du tout eux qui s'occupent de la scolarisation, là. Là, il y a toute une longue histoire à raconter. Il faudrait faire ça une autre fois.
Déjà, on apprend des choses, là, que l'école était située où est-ce qu'il y a la Place des Arts aujourd'hui. Comme tu dis, il y a beaucoup de mouvements qui s'est fait. Et je pense que Nazareth, c'est un nom d'une sœur.
Non.
Non? Pas du tout?
Non, non, l'Institut Nazareth, le nom lui-même, j'avoue que je ne sais pas là, d'où il vient. C'est un foyer, hein, c'est comme un foyer d'accueil. Mais c'était aussi une école qui s'est développée beaucoup, là, très, très, très rapidement. Mais les religieuses, c'est les religieuses qui s'occupaient de ça, de la formation des personnes, de la scolarisation d'abord, et là, il y avait une école de musique très importante qui s'est développée. Mais ça date effectivement la fondation en 1861 à Montréal. Mais c'était d'abord, la première était à Paris. L'Institution royale des jeunes aveugles, ça s'était fondé à Paris. Comme je le disais tout à l'heure, en 1784.
Mmh.
Donc, c'est presque un siècle plus tard là, que c'est arrivé au Québec. Mais, en fait, Louis Braille fréquentait cette institution-là, et c'est dans le cadre de cette institution-là, où il est devenu d'ailleurs professeur, qu'il a développé son système. Son système qui, au fond, est assez génial dans le sens qu'il donne l'autonomie, il nous donne l'autonomie de lire, et surtout, ce qui n'était pas possible auparavant, d'écrire, parce que le braille se lit, mais s'écrit, tandis que la reproduction des caractères en imprimé, ça s'y lisait, mais ça pouvait pas s'écrire par les aveugles eux-mêmes. Et puis, ce que je trouve extraordinaire de ce système-là, c'est que même à travers aujourd'hui tous les changements technologiques qu'il y a eu, ben, le braille s'écrit et s'utilise encore aujourd'hui, même dans l'environnement informatique. Ça montre jusqu'à quel point le système était bien structuré. C'est un système très, très logique, là, d'organisation des points. Enfin, là, je ne veux pas aller dans le détail pour que les gens s'y perdent, là. Mais ce qui donne une autonomie de lecture absolument étonnante. Puis au début, on écrivait avec une réglette, une tablette et un poinçon. Aujourd'hui, il y a des imprimantes, on l'utilise à l'ordinateur, sur les tablettes, les affiches braille, les plages tactiles, etc. Donc, le système, fondamentalement, n'a pas changé. c'est le mode de transmission et d'utilisation qui a évolué, en fait. Alors, moi, ben, c'est quand le projet du gouvernement s'est mis en place, parce qu'il arrivait, c'est que, à l'époque, toutes les personnes non-voyantes fréquentaient des écoles spécialisées. N'étaient pas intégrées dans les écoles publiques. Ça n'existait pas, ça. Ça a commencé, ça, vers 1970, quelque chose comme ça. Presque un siècle plus tard, hein.
Okay.
Et à l'époque, donc, les personnes aveugles fréquentaient une même école et tout le monde apprenait un peu par transmission orale. On apprenait comment mettre en page un texte, parce qu'en braille, on peut faire de la mise en page aussi, là. Donc, les gens apprenaient entre eux, d'une certaine manière. Il n'y avait pas un code ou des normes officielles. Mais quand les gens ont commencé à aller dans les écoles publiques et que le gouvernement au Québec, en tout cas, a commencé à subventionner la transcription des ouvrages en braille, là, il fallait mettre un peu d'ordre parce qu'il y a certaines pratiques qui étaient différentes, disons, en France ou dans une école ou dans une autre. On ne disposait pas le texte de la même manière. On faisait pas les paragraphes de la même manière. Alors là, le gouvernement a dit, ben écoute, là, c'est nous qui finançons. Maintenant, ces ouvrages-là vont aller en bibliothèque et tout. Il faut que tout le monde travaille de la même manière. De là est née l'idée de faire un code. Le code qui donne les normes. Si tu fais une page titre, tu la disposes de telle manière. Si tu veux indiquer la pagination, tu procèdes de telle manière. Alors, c'est toute cette réglementation, ça n'a pas modifié le braille, mais ça a modifié son utilisation, ou plutôt, je ne dirais pas modifié, réglementé son application pour que tout le monde puisse se comprendre et procéder de la même manière. Il y a eu la grande ambition aussi que cette réglementation-là s'applique à travers la francophonie. Ça a eu lieu en grande partie. C'est sûr qu'il y a toujours un peu de gens qui veulent garder leur manière de faire, un peu, mais je dirais que dans l'ensemble, la normalisation est assez bien appliquée, de sorte que si vous prenez un livre en braille à la grande bibliothèque ici à Montréal, ben, n'importe qui à travers le monde va s'y retrouver, parce que la mise en page et l'organisation est peut-être pas identique à 100%, mais très, très semblable. Alors ça a été un pas de géant, là, je dois dire. Maintenant qu'il y a ce code et quelqu'un veut savoir comment on dispose un tableau, par exemple, ben là, il y a toutes les règles pour indiquer comment faire. Donc le braille, au fond, depuis sa création, lui-même n'a pas vraiment changé. C'est sûr qu'il y a des symboles dans le code qui se sont ajoutés, parce qu'il y a des pratiques de mise en page et d'édition dans l'imprimé qui ont évolué aussi depuis beaucoup d'années. Les livres ne sont pas présentés tout à fait de la même manière aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 100 ans, 200 ans et plus, hein. Alors le braille, mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'avec ce système de base de représentation des caractères, un signe, un symbole en braille, il y a une communication beaucoup plus facile maintenant entre les voyants et les non-voyants, parce que la lettre a une figure différente selon qu'elle est en point braille ou en imprimé, mais son sens est le même. Donc, ce système-là peut s'adapter à des technologies qui se transforment, qui évoluent, et on s'y retrouve. Quand on lit sur un afficheur braille ou qu'on lit sur du papier, on lit exactement les mêmes caractères, mais pas les mêmes caractères que l'imprimé, les mêmes caractères que du système braille.
Du système braille?
Oui.
Alors, c'est une découverte vraiment révolutionnaire.
Tout à fait. Et qui va durer, hein?
Qui va durer, oui. C'est justement, le fait aussi, c'est que ça va durer, que ça va continuer, puis ça continue. Parce que il y a beaucoup d'enfants qui viennent au monde avec des problèmes de vision et tout, ou par un accident. Bon, souvent les jeunes des écoles, sans le savoir, lancent des balles de neige, il faut avoir un morceau de glace qui arrive directement dans l'œil, puis qui peut faire beaucoup de tort à l'œil, puis la personne se retrouve avec une cécité partielle ou une grande cécité complète.
Ouais, puis il y a la maladie aussi.
Il y a la maladie, oui, parce que moi-même, c'est le diabète qui a attaqué.
Le problème du braille, ben, problème, non. c'est pas le braille qui est en question actuellement, c'est son enseignement. Le braille avant toutes les personnes qui avaient des difficultés visuelles allaient dans une même école et tout le monde apprenait le braille, quel que soit son degré de vision, tout le monde l'apprenait. Maintenant, comme les élèves sont scolarisés dans leur milieu de vie, évidemment, il n'y a pas nécessairement des professeurs de braille dans toutes les écoles que fréquentent les enfants. Donc, le braille s'enseigne moins maintenant. Moi, personnellement, je trouve ça dommage parce que c'est le système d'alphabétisation pour les non-voyants par excellence, parce que on touche le texte. Toucher le texte, c'est comme le voir, hein? C'est une façon de le voir. En lisant un texte, en touchant un texte, on apprend aussi son orthographe, hein? Donc, je trouve que c'est un facteur d'alphabétisation majeur. Aujourd'hui, bon, on peut écouter, absolument. D'ailleurs, c'est pas en conflit, à mon avis, audio. C'est complémentaire à lire tactile, mais c'est une façon différente d'approcher. C'est comme lire puis écouter la radio, hein, les gens qui voient. Ben, c'est complémentaire, mais c'est pas exactement la même chose. Alors, moi, je trouve que le braille devrait, et puis c'est une façon d'écrire. Vous allez me dire, oui, on peut écrire à l'ordinateur, puis après, on imprime en braille. C'est tout à fait vrai. Mais si on ne voit pas l'image du mot, peut-être que l'orthographe peut en souffrir un peu.
Oui, parce que les gens utilisent beaucoup comme le clavardage dans leur langage. Alors, écrire au son que tu dis, ça change complètement l'orthographe, là.
Ben, c'est pas du tout le même langage, hein, c'est autre chose.
Ah, ben oui.
Moi, je trouve que les personnes qui sont en déficience de quelque chose devraient maîtriser tous les outils qui sont disponibles. Parce qu'on a déjà la difficulté de le premier accès au texte imprimé, on l'a pas. Mais avec tous les autres moyens, le braille, l'informatique, l'audio, je trouve plus on a d'outils pour s'adapter ou pour faire différentes activités, plus on est performant et efficace. Oui, alors, en tout cas, moi, je favorise. Je dis pas que je préfère ou pas, la question n'est pas là. Je trouve que c'est une autre approche. C'est une autre façon d'appréhender du texte. Le braille, c'est comme l'imprimé, au fond. Pour moi, c'est l'équivalent. Parce que quand tu lis un texte, tu lis dans le texte, que ce soit en imprimé ou en braille, c'est toi qui maîtrises, par exemple, le rythme de ta lecture, qui maîtrises, disons, l'émotion que tu peux ressentir. T'es pas soumis à la décision de l'autre. Quand tu écoutes quelque chose, ou qu'on écoute la radio ou pas, les gens peuvent pas moduler notre façon de parler, notre vitesse de nous exprimer, ou nos humeurs. Ils reçoivent ce qu'ils entendent. C'est quelque chose qu'ils reçoivent. Tandis que quand on lit nous-mêmes, dans le texte, c'est nous qui donnons sur l'expression, l'émotion, la cadence, le rythme, si on veut ralentir, si on a besoin de réfléchir un peu en lisant. C'est ça la grande différence. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bon. Je dis que c'est différent. Et c'est une richesse. Pour moi, c'est une richesse.
C'est une richesse, oui. Quand tu lis un texte, c'est toi qui absorbes, c'est toi qui te fais tes images. Si on parle de plage, si on parle de soleil, alors...
Quand tu l'écoutes, c'est pareil. Ça, ces émotions-là, tu les ressens aussi. Mais moi, j'ai dit, c'est l'intimité. Au fond, le braille donne l'intimité à la lecture. C'est ta personnalité qui lit. C'est pas écouter. C'est formidable d'écouter un film, d'écouter une interview, de tout ça. Ça, c'est autre chose. C'est quelque chose qu'on reçoit, tandis que le texte lui-même, c'est toi qui entres en intimité avec le texte. C'est toi qui te l'appropries, le texte. Tandis que quand on écoute, c'est un texte qui nous est donné. Mais enfin, là, je veux pas m'avancer trop là-dedans, là, mais je trouve quand même que c'est important de faire la différence, de pas dire un est meilleur que l'autre. Un n'est pas meilleur que l'autre, c'est complémentaire. Et ça, après ça vient le goût, hein, si tu es plus à l'aise avec une méthode ou avec une autre. Moi, j'écoute aussi beaucoup, mais à un moment donné, des fois, on dirait que mes oreilles sont comme fatiguées d'avoir toujours quelque chose qui les agresse. Alors, des fois, je suis bien contente de prendre mon livre dans le silence.
Bonjour, Nicole. À travers ce que tu nous as donné comme information, j'ai relevé quelques petits, qu'on pourrait dire, des sous-questions. Parce que tu as parlé des outils, des nouveaux outils qui sont utilisés. Parce que, bien entendu, le braille, c'est un système qui a été normalisé grâce à ta propre intervention, démarche. Est-ce que tu peux développer encore un peu plus là, sur ce sujet?
Bon, je ne sais pas exactement les outils que Louis Braille avait, parce que j'ai commencé, j'ai appris le braille jeune, hein, j'ai commencé en première année, j'ai appris le braille tout de suite, comme les enfants à l'école apprennent à lire et à écrire. Alors, le premier outil que j'ai eu entre les mains...
Un poinçon?
Non, avant ça, c'était un petit bloc de...
Ah, OK.
Un petit bloc de bois...
Oui.
...qui avait une succession de, je ne sais pas, une dizaine, une douzaine de plaquettes, un petit peu comme je disais tout à l'heure, des perforées, des plaquettes perforées...
OK.
Qui avait la forme d'un 6 de domino, là. Alors, on avait des petits clous et on nous montrait comment écrire les lettres petit à petit. Sur chaque petit bloc, on mettait une lettre. Ça, c'était la première façon d'appréhender la forme. Parce qu'il y a quand même, tu sais, ce domino-là, ça a une forme particulière, rectangulaire. Et les petits clous, ben, c'était comme ce qu'on apprendra à faire après les points. Mais il y a quelque chose de très, très, très important ici à noter, c'est que, et ça demeure, quand on écrit en braille à la main, c'est-à-dire avec plus tard, ce soit une réglette et un poinçon, les caractères se présentent en miroir. C'est-à-dire que quand on le petit bloc, pour bien se comprendre, on numérote les points de 1 à 6. Le point 1, 2, 3, c'est de en haut à gauche et en descendant, en haut, au milieu, en bas, ça fait les points 1, 2, 3. Et à droite, à côté, en haut, c'est 4, au milieu, c'est 5 et 6. Donc, on lit en braille de gauche à droite, comme tout le monde lit de gauche à droite, hein? Enfin, en Occident. Mais quand on écrit, c'est pas la même chose. Parce que quand tu lis, les points sont soulevés, hein, ont été soulevés. Mais quand on écrit, c'est exactement le contraire. Le point 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 1, 2, 3 est à droite quand on écrit, le 4, 5, 6 est à gauche. Parce qu'il faut tourner la feuille. Quand tu mets ta feuille dans la tablette, tu perds fort avec ton poinçon. Mais quand tu vas tourner ta feuille, les points en relief vont partir de la gauche comme tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on apprend avec les points et non pas avec, je ne sais pas, un autre langage qui pourrait nous mélanger. Bon, donc, une fois le petit bloc maîtrisé, on avait ce qu'on appelle une tablette. Une tablette, c'est pas la tablette informatique d'aujourd'hui, là. C'était une plaque de métal en acier avec des sillons horizontaux creusés sur laquelle plaque on déposait ce qu'on appelait une réglette avec une rangée de petits rectangles à l'intérieur desquels on perforait notre papier pour faire les points. Dans chaque rectangle, on faisait une lettre, un signe, comme je disais au début, qui pouvait se composer de un point. Donc, si vous prenez seulement un point, vous avez 6 signes que vous pouvez obtenir. Parce que si vous le mettez en haut à droite, c'est la lettre A, si j'écris. Donc. Mm-hmm. Si je le mets au milieu à droite, quand j'écris, toujours, ça va être la virgule. Si je le mets en bas à droite, ça va être l'apostrophe. Donc, ça vous montre toute la possibilité, déjà avec les 6 points possibles du domino. On appelle ça la cellule braille. Hein? Les 6 points, ça s'appelle une cellule. ben vous avez déjà 6 caractères. Après ça, vous avez toutes les combinaisons de 2 points qui sont possibles. Toutes les combinaisons de 3 points. Donc, dans chaque petit rectangle, on performe notre feuille avec un poinçon et ça forme un symbole. Et quand on enlève la feuille qui était posée sur la tablette, là, ça s'en va en miroir, hein, parce qu'il faut que la partie en relief, et c'est là qu'on retrouve l'écriture, la lecture, on lit comme tout le monde, de gauche à droite. Mais quand on écrit manuellement, il faut inverser les signes. Il y a différents outils, hein, pour écrire sur la tablette, qui a, je sais pas, 18 lignes, je pense, je me souviens plus exactement. Ensuite, il y a des petits outils de poche et tout ça. Ça, c'est manuel. Mais après ça, beaucoup plus tard, moi, j'ai connu ce qu'on appelle le dactylo braille. Ça, c'est une machine à écrire qui va toujours écrire les mêmes caractères braille, mais d'une façon différente. Chacune des clés de cette machine à écrire, il y a juste 6, une touche pour chacun des points, mais là, on peut les taper ensemble. Si je fais la lettre A, par exemple, je vais taper juste sur une clé. Mais si je veux taper le E accent aigu, il va utiliser les 6 points. Je peux les taper d'un seul geste. À ce moment-là, on n'a plus le problème d'écrire de droite à gauche et lire de gauche à droite. Là, on revient toujours en mode conventionnel, c'est-à-dire en mode gauche à droite. Là, il y a eu la machine à écrire. Après ça, quand l'informatique est arrivée, il y a eu les imprimantes braille qui sont arrivées. Des imprimantes conventionnelles, mais on peut avoir une imprimante braille qui est rattachée ou en connexion avec l'ordinateur. À ce moment-là, évidemment, le fichier est sur l'ordinateur, puis tout un câblage qui fait qu'on pourra imprimer le texte en braille à partir d'un fichier d'ordinateur. Mais ça, là, ça a évolué, ben, l'informatique plus rapidement un peu, mais c'est pour montrer à quel point le même système que Louis Braille a conçu était transférable dans de nouvelles techniques. Et puis, il y a eu ce qu'on appelle les afficheurs Braille, c'est-à-dire, c'est un périphérique qu'on ajoute à notre système d'écran et clavier et qui reproduit exactement, mais en point Braille, ce qu'on voit à l'écran. Donc, on travaille à ce moment-là. On tape nos textes sur un clavier standard, le clavier régulier de l'ordinateur, mais on peut aussi, avec certains logiciels, convertir le clavier en clavier braille. Mais là, je ne sais pas si je m'en vais trop dans les détails, ça devient un petit peu complexe, mais c'est pour montrer, moi, c'est comme ça que je réalise le génie, je le réalisais avant, mais encore plus extraordinaire, que le braille n'est pas modifié, mais est adaptable à différents outils les plus avancés, finalement. Le seul problème à l'ordinateur, c'est que les afficheurs braille, c'est comme une réglette sur une seule ligne électronique, ne peut pas prendre la largeur texte, parce que les lignes sur l'écran sont beaucoup plus longues. Et évidemment, n'a pas non plus, on peut pas, il y a seulement une ligne, tu peux pas avoir 25 lignes, tu peux pas avoir la représentation de tout l'écran sur ton afficheur braille. Je pense que technologiquement, ce serait possible, mais financièrement, ça ne l'est pas. Parce que les cellules électroniques braille, évidemment, là, c'est une autre dimension du budget. Mais on dirait que l'informatique fait encore rendre le système braille plus génial, à mon avis, parce qu'on est capable de continuer à l'utiliser d'une autre manière. Donc, je pense que tout ça, c'est un grand hommage à Louis Braille.
Braille, oui.
D'ailleurs, Louis Braille a perdu la vue à 3 ans, hein, lors d'un accident, dans l'atelier de son père.
Oui.
Et Louis Braille n'a pas développé uniquement l'alphabet Braille. Il a développé tout le système de notation musicale Braille.
Oui, et c'est ça que je voulais dire, c'est... Ça a été plus loin après, justement, avec le côté musical.
Oui, mais pas si loin que ça, parce qu'il est mort à 42 ans. Il est mort en 52. Non, il est mort à 43 ans. Alors, parce qu'il était musicien aussi, il était organiste, d'ailleurs, dans des églises à Paris. Mais il a développé le système de notation musicale. Et je dois dire que le système de notation musicale, c'est beaucoup plus complexe que l'alphabet. Parce que là aussi, la notation musicale en imprimé n'a rien à voir avec la notation. Et il a utilisé, c'est ça qui est génial aussi, parce qu'on dit qu'on peut faire plusieurs caractères avec la petite cellule braille de 6 points, mais c'est limité. Et la notation musicale en imprimé ne ressemble en rien à l'alphabet braille, à l'alphabet conventionnel. Une symbolisation totalement différente avec une portée, etc. Mais il a réutilisé les symboles disponibles pour l'alphabet en les organisant de manière différente pour constituer toute la notation musicale en braille. Par exemple, sur une portée de musique, on identifie la hauteur des sons, les notes qu'on veut mettre, selon la hauteur où l'on place les symboles sur la portée. Donc, si la note est posée plus haute sur la portée, ça va donner un son plus haut, etc. Et en braille, c'est impossible, ça, parce que le braille est strictement linéaire et on ne peut pas varier l'espacement entre les lignes. En braille, c'est impossible, ça. C'est strict, c'est figé. Alors, il a développé tout un système d'agencement pour définir les hauteurs, les durées. Ça c'est, on en parle moins parce que peut-être c'est un petit peu moins pratiqué. Puis malheureusement, aujourd'hui, ça s'enseigne beaucoup, 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 beaucoup moins. Mais moi, j'ai fait toutes mes études en braille musicale aussi avec ce système-là. Donc, plus on y pense, plus on en parle, plus on peut dire que c'est génial. C'est pour ça que je trouve que tout en évoluant avec le choix aussi des techniques qu'on a aujourd'hui, est-ce que si Louis Braille était né dans les dernières décennies, est-ce qu'il aurait inventé le même système? Personne ne peut répondre à ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, le système qu'il a inventé nous est encore fort utile.
C'est comme je disais tantôt, c'est toute une découverte qui a continuer d'évoluer, parce que là, on parle du braille musical. Là, peut-être que je me trompe, parce que moi, j'y vais avec ce que j'ai entendu dans les corridors. Il n'y a pas aussi le braille qui a été le braille chimique, le braille mathématique, le braille pour la cuisine. Est-ce que je me trompe?
Ben, c'est-à-dire que quand on a fait les codes de transcription, là. Bon, on l'a fait d'abord pour la littérature, ensuite, il y a eu un code informatique, il y a eu un code, effectivement, pour les mathématiques. Bon, oui, mais c'est toujours, à la base, c'est toujours les mêmes caractères. Braille. Il n'y a pas de symbole nouveau, parce que mathématiquement, on ne peut pas aller plus loin que les combinaisons possibles des points de la cellule braille. Quand on a épuisé ces combinaisons-là, il n'y en a pas d'autres. Là, ce qui arrive à ce moment-là, pour des notions plus complexes, on agence les caractères. On peut mettre 2-3 symboles pour désigner, par exemple, un changement de langue, un changement de formule mathématique, etc. Donc, avec les différents caractères braille, on peut conjuguer 2 ou 3 caractères braille qui constituent un symbole dont on a besoin. Par exemple, pour faire simple, dans un texte, pour indiquer, par exemple, qu'un certain passage surligné, hein,
oui,
ben là, on va utiliser 2 ou 3 symboles qu'on va mettre devant les lettres pour désigner que ce passage-là est surligné, est en italique, est en caractère grand. Là, on utilise, mais il faut mettre ça devant les mots. Ce qui fait dire à certaines personnes que ça surcharge le texte. Oui, ça surcharge le texte parce que ça fait des caractères supplémentaires à décoder, mais ça donne beaucoup plus de précision. Quand tu lis le texte, tu vois ce symbole-là, là tu dis, ah, ça c'est en caractère grand, ou ça c'est en italique. Donc, ça surcharge aussi l'information, ce qui, par exemple, dans le cas des études et tout, est très, très, très important d'avoir le détail, parce que la typographie dans l'imprimé a un sens. Hein, selon qu'on met les titres des ouvrages, par exemple, en italique, on veut souligner des passages pour attirer l'attention, on met en caractère gras. Bon, tu sais, il y a tout ça, là. C'est c'est sûr qu'à ce moment-là, oui, on surcharge le texte, mais en même temps, on donne beaucoup plus d'informations. Parce qu'on ne peut pas rajouter, dans l'imprimé, tu peux changer la police. En braille, il n'y a pas de police, il y en a une seule. Et tu ne peux pas changer la grosseur de ton caractère. J'ai eu des expériences pour des gens qui avaient un peu plus de difficultés du point de vue tactile de faire des caractères plus gros, c'est-à-dire d'espacer les points. Parce que les points de la cellule braille sont relativement proches. Mais ça, d'ailleurs, techniquement, ça aussi, c'est venu de Louis Braille, de définir quel espacement on peut mettre entre les points pour qu'on puisse les distinguer. Si tu les mets trop proches, tu ne pourras pas les distinguer parce que le toucher ne peut pas percevoir de façon aussi fine que l'œil. Les micro-distances, le toucher ne les perçoit pas. Ou alors, s'il est trop gros, si on met les points trop gros, la surface sensible du doigt couvrira pas le caractère au complet. Enfin, là, je m'avance dans toutes sortes de directions, mais c'est pour montrer jusqu'à quel point tout ça a été précis, bien étudié, bien contrôlé pour que ça puisse fonctionner encore aujourd'hui.
Puis pour le bénéfice de l'auditoire, Nicole, je vais te demander une question que tu vas peut-être trouver bizarre. Si j'écris le nom Nicole en braille, moi, on m'avait dit qu'on commence avec les points 3 et 6 et on le met deux fois pour mentionner que la première lettre est majuscule. C'est bien ça?
C'est pas 3 et 6, c'est 4 et 6.
Ah, 4 et 6, oui, je me suis trompé. Oui, 4
bon, le caractère formé des points 4 et 6, c'est le caractère qui représente la majuscule. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas changer la forme du N, par exemple. Le N se fait avec les points 1, 3, 4, 5. Bon. Qu'il soit en majuscule, en minuscule, quand on met 1, 3, 4, 5, c'est minuscule. Les caractères qu'on forme à l'intérieur de la cellule braille, c'est toujours minuscule. Alors, si on veut désigner une lettre qui va être majuscule, il faut mettre devant cette lettre, juste avant, ce symbole de la majuscule qui est les points 4 et 6. Alors, tu mets point 4, 6. Dans la cellule suivante, tu écris le N, puis dans l'autre, c'est le I. Si tu veux désigner que le mot complet est en majuscule, que tout le mot Nicole est en majuscule, là, tu vas écrire deux fois le symbole de la majuscule devant. C'est comme je dis, on ne peut pas ajouter ni dessus, ni au-dessous. On peut ajouter devant un mot si on veut lui donner un caractère plus spécifique. Par exemple, si on veut le mettre en italique, si le mot Nicole doit être en italique, ce sont les points 4, 5, 6 qu'on va mettre devant. Ça veut dire que le N va être en italique, puis après les autres ne seront pas en italique. Si on veut le doubler, on a un autre caractère devant. C'est dans ce sens-là que je dis que certaines gens trouvent que si on ajoute trop de spécifications, ça alourdit un peu la lecture. C'est vrai, mais en même temps, ça donne plus d'informations. Alors, on choisit, hein, où on veut davantage d'informations, où on en a moins. Mais quand on est en intercommunication, quand on travaille avec des voyants, il faut avoir ces informations-là parce que lui, la personne voyante, là, elle aussi. Donc, c'est important pour bien comprendre. Par exemple, je sais pas, moi, si vous êtes dans une classe et puis le professeur va dire, bon, tous les mots en rouge sont des adjectifs. Bon, mais celui qui lit en braille, là, il n'a pas de rouge, lui.
Oui.
C'est pas. Alors, quand on transcrit le document à l'origine, si on veut que l'élève sache trouver les mots qui sont en rouge, il va falloir mettre devant chacun de ces mots-là un symbole qui va désigner que les mots qui ont précédé ce caractère-là ou ce symbole-là seront les mots en rouge. Donc, ça devient, à mon avis, de plus en plus important quand une personne est en interaction avec une personne voyante de donner toutes les informations qui sont porteuses là, de sens. Tu sais, c'est pas juste pour faire joli, pour être esthétique, là. Ça, c'est pas important. Mais quand c'est porteur de sens, le braille recèle les moyens de fournir l'information. Mais ça, ça demande évidemment de la planification et tout, là. Ça, c'est de l'ordre de ceux qui s'occupent de la transcription, là. Mais c'est possible. Et c'est ça, au fond, beaucoup que le code qui a été publié au Québec, et c'est là-dessus que j'ai beaucoup travaillé, moi, pour trouver justement une façon de rendre l'information la plus précise possible, surtout dans le domaine des études, surtout.
Alors, sur ces belles paroles, Nicole, Francine et moi, on te remercie de ta grande générosité, disponibilité et ouverture. Et je suis sûr qu'avec cette entrevue, l'auditoire a appris beaucoup, beaucoup sur le système de Louis Braille.
En tout cas, j'espère que ça n'a pas été trop complexe, là.
Non, ça n'a pas été trop complexe. Mais c'est très, 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 très intéressant, Nicole, pour quelqu'un là qui ne connaît absolument rien à ce type de handicap. Franchement, tu as vraiment, excuse-moi l'expression, ouvert les yeux.
Oh, mais oui, c'est ça le mot. Je pense que plus le monde, les gens comprendront comment ça fonctionne, en tout cas, ils vont s'y intéresser, puis peut-être ceux qui en ont besoin vont s'y mettre, ça donne du courage, peut-être. C'est comme tous les apprentissages, il faut s'y mettre, il faut travailler. Ah. Et on en tire, à mon avis, beaucoup de satisfaction, et c'est un grand enrichissement, et puis on continue d'évoluer avec toutes les nouvelles technologies, puis on y a accès, c'est ça qui est formidable aussi. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté.
Tu es une grande fierté pour nous.